Voilà, je crois que les paroles que nous a lues Albert suffiraient à arrêter notre culte dans la prédication, puis continuer à le louer. Être avec lui dans le royaume de Dieu, partager avec lui. Mais bon, on va malgré tout continuer. Par un verset de ce psaume 29 qui nous parle de la grandeur de l'amour de Dieu. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La toute-puissance de Dieu. Et ce psaume finit par ce verset 11 qui nous dit « L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. » Une autre version dit « L'Éternel bénit son peuple par le shalom, par la paix. » Et quand un cœur trouve la paix dans le Seigneur, on est heureux, on est heureux. L'Éternel donne la force à son peuple et bénit son peuple et le rend heureux. Ça a toujours, et c'est toujours, le but de Dieu, que son peuple soit heureux, heureux. Et parfois, on peut se poser la question, est-ce que le peuple de Dieu est vraiment heureux ? Est-ce qu'il est vraiment heureux ? Est-ce qu'il est toujours heureux, ce peuple de Dieu ? On le voit au cours des siècles traverser tant de moments difficiles. Des assemblées passent par des moments difficiles. Et peut-être que des gens qui ne font pas partie du peuple de Dieu pourraient dire « Est-ce qu'ils sont vraiment heureux, ces gens-là ?» C'est une question, mais la volonté de Dieu, c'est que son peuple soit heureux. Heureux d'être avec lui, heureux de le connaître, heureux, heureux. Aujourd'hui, si on nous demandait « Quelle date sommes-nous ?» On pourrait dire ben, « Nous sommes le 21 mai et nous aurions raison. » Et si on demandait à Israël « Quel jour vous êtes aujourd'hui ?» Il nous dirait « Le 21 mai. » Ils auraient raison. Mais aujourd'hui, c'est un autre jour pour Israël. C'est le jour 46e du conte du Homère. Alors nous, ça ne nous dit pas grand-chose. Le conte du Homère, ça ne nous dit pas grand-chose. Et pourtant, ils sont le 46e jour du conte du Homère. Qu'est-ce que ce conte du Homère ? Alors, on va aller le voir dans la parole de Dieu. Hein ? Je vous invite à faire une lecture d'un livre que vous lisez tous les soirs avant de vous endormir. Le livre de Lévitique. Hein ? Oui, vous, hein, tous les soirs, vous prenez un réel plaisir à prendre le Lévitique et à le lire. Hein, courageusement, voilà. Mais je vous invite à faire une lecture dans Lévitique 23, au chapitre 23, verset 15. Les trois premières fêtes de l'Éternel ont eu lieu, et là nous entrons dans la quatrième fête, et il nous est dit au verset 15, « Depuis le lendemain du Shabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e Shabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits de 2 dixièmes de fleurs de farine et cuites avec du levain. Ce sont les prémices de l'Éternel. » Alors, évidemment, on va passer sur beaucoup de notions. Simplement, qu'à un moment donné, Dieu leur dit, voilà, vous avez fêté les 3 premières fêtes, maintenant, vous allez compter 7 semaines, 49 jours, et c'est Dieu qu'il leur demande de compter. Et aujourd'hui, ils sont dans ce 46e de ces 50 jours. Cette semaine qui vont les amener à la quatrième fête de l'Éternel, qui est Shavuot. Ces 50 jours vont être, finalement, ces 50 jours qui vont les séparer de l'Égypte, leur départ de l'Égypte, jusqu'à leur arrivée au mont Sinaï. Hein, 46 jours pour arriver au mont Sinaï. L'Éternel va leur demander d'attendre 3 jours, 49, et le 50e jour, ils vont recevoir la Torah de Dieu. 50 jours. 50 jours qui va être une période de délivrance, de libération, jusqu'à ce qu'ils vont recevoir le don de la Torah. Dieu va donner cette Torah aux fils d'Israël, de Pâques à Pentecôte. Voilà le conte du Homer. Sortir mon peuple d'Égypte. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Et mon but, c'est que mon peuple soit heureux. Alors, il va les délivrer de la maison de servitude. Il va les délivrer. 49 jours pour les amener de la servitude à la liberté des enfants de Dieu. À la liberté. Par le chemin que Dieu lui-même a choisi de les mener. Ils n'ont pas choisi un chemin. Dieu va choisir un chemin. Un chemin pour les amener dans le pays promis, dans le pays de la promesse. Quel est ce pays? Alors, regardez avec moi ce pays. Dans Deutéronome, au chapitre 8, et au verset 7, il nous est dit, « Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier, de grenade, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et les montagnes duquel tu tailleras les reins. » Vous voulez pas habiter un pays comme ça? Ça vous tente pas d'un beau pays comme ça? L'Éternel veut le bonheur de son peuple. Mais Dieu va préciser quelque chose sur ce pays. Dans Deutéronome, au chapitre 11, il nous est dit, car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. En Égypte, il y avait une lourde servitude, mais pour la culture, il n'y avait aucun souci. Aucun souci. Il semait, ça poussait. Il y avait le Nil qui était là, le Nil irriguait, il n'y avait aucun souci. Ça poussait, ils avaient d'ailleurs, ils regrettaient toutes les bonnes choses qu'ils avaient en Égypte. Il n'y avait aucun souci. Mais attention, le pays que je vais te donner n'est pas comme le pays d'Égypte. Le pays que je vais te donner dépend des pluies, dépend de tout un tas de choses. Ce pays que je vais te faire rentrer, c'est un pays où il faudra que tu vives par la foi, dans une confiance absolue en ma parole. Et à partir de là, ce pays te donnera une abondance extraordinaire, extraordinaire. Mais il faudra que tu vives par la foi, dans une confiance totale en moi et en ma parole que je vais te donner. Ce n'est pas n'importe quel pays. 49 jours de l'Égypte au Sinaï, Dieu va les amener à vivre dans la foi, dans une confiance absolue en lui. 49 jours pour apprendre cette confiance. Et il va les amener au travers de 5 circonstances pour qu'ils puissent voir quelle est la bonté, quelle est la fidélité de Dieu, ce Dieu qui veut leur bonheur. Et accompagnez-moi dans Exode au chapitre 14, je vais très vite passer sur ces passages, on va passer sur plein de notions évidemment, mais ils vont quitter l'Égypte par le chemin que Dieu les conduit, et là, ils arrivent devant la mer. Et ils voient les Égyptiens arriver avec tous leurs chars. C'est-à-dire, waouh, Dieu nous fait prendre un chemin, mais là, ils vont nous ramener en Égypte ou ils vont nous tuer. C'est impossible. Alors, au chapitre 14, ils ne réalisent pas le plan de Dieu. Et c'est souvent ça qui nous désarçonne avec ce Dieu que nous servons. Nous ne le comprenons pas toujours. Ils sont là, il y a la mer devant eux, il y a toute l'armée de Pharaon, et ça y est, on va mourir. Humainement, il n'y a aucune solution. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon, que c'est Dieu qui a un projet pour eux. Un projet de grâce, de bénédiction, mais ils ne savent pas que c'est Dieu lui-même qui a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi ? Pour que Dieu fasse voir sa gloire et à Pharaon et à son propre peuple. Mais ça, ils ne le savent pas. Et ça, ça les inquiète, ça les perturbe. Ça. Ils disent, ça y est, on est perdu. Et ils vont s'en prendre à Moïse. « Moïse, regarde où tu es. » Et Moïse va leur répondre, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Et à ce moment-là, Dieu va dire à Moïse, « Étends ton bâton. » Et la mer s'est écartée et ils sont passés. Et la mer s'est refermée sur les Égyptiens. Et là, quand ils vont voir la grandeur, la puissance de Dieu, alors là, ils vont se mettre à chanter, ils vont faire un cantique extraordinaire. Dans cette confiance, ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu toute sa puissance, ce Dieu qui les libère. Et ils vont même dire dans ce cantique, la crainte, la frayeur surprend les adversaires, car par ta grandeur tombera, ils deviendront muets comme une pierre, jusqu'à ce que ton peuple soit passé, ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé le peuple que tu t'es acquis. Frères et sœurs, nous sommes le peuple qui s'est acquis, et à quel prix il nous a acquis, au prix de son sang. Et frères et sœurs, nous passerons où ? Albert nous l'a rappelé, dans son royaume un jour. Nous passerons, parce qu'il nous aime. Alors ils vont continuer leur marche en ayant ce témoignage de la grandeur de ce Dieu. Et au verset 22 du chapitre 15, après avoir chanté les louanges, Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et après 3 journées de marche, ils ne trouvèrent point d'eau. Ah, ils ne trouvèrent point d'eau. Allez, ça va pas. Moïse, non, on a soif. Qu'est-ce que ce Dieu, pourquoi il nous a amenés ici? Pourquoi? S'il nous accompagnait vraiment, ça ne nous arriverait pas. Alors Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. Je lisais une autre version, Darby notamment, et d'autres versions, où il nous est dit, l'Éternel lui enseigna un bois, hein, qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devient douce. Une eau amère qu'on ne peut pas boire. et on jette un bois, on enseigne un bois, et cette eau devient douce. Combien nous avons besoin d'enseigner le message de la croix pour l'âpreté de cette vie ici-bas, pour toutes les tensions que nous vivons dans cette vie ici-bas. Nous avons vraiment besoin de comprendre, de connaître le message de la croix pour que l'âpreté, l'amertume de nos vies puisse être changée en douceur, de la douceur de Christ. De cette douceur où il vient près de nous pour nous enseigner, pour nous dire combien on est précieux pour lui. Et nous, nous lui répondons, combien tu es précieux pour nous, combien tu es précieux pour nous, pour que l'amertume de nos vies se change en douceur, frères et sœurs, le message de la croix. Et là encore, Dieu va pourvoir à leurs besoins. Non seulement il va pourvoir, mais au verset 27, il nous est dit, ils arrivèrent à Élim et il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et ils campèrent là. Il leur a donné encore davantage. Il leur a donné encore davantage de ce qu'il leur demandait. On a affaire à un Dieu d'abondance, frères et sœurs. Il nous demande au-delà et il nous donne au-delà de ce que nous lui demandons parfois. Mais ils vont continuer. Ils voient que Dieu a pourvu, ils ont pu boire. Alors ils vont continuer à apprendre. Et puis ils vont arriver au chapitre 16, où toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, et qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois, après leur sortie d'Égypte, et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse, parce que là, ils avaient faim. Ils n'avaient plus rien à manger. En Égypte, mais on avait tout ce qu'il fallait. Et là, Moïse, avec ton Dieu, tu nous amènes là, et là, on a faim, on n'a rien pour nos enfants, pour nos familles, on n'a rien. Oh, voilà. Moïse, le peuple murmura. Nous avions de la viande, nous avions du pain. Et là, Dieu dit à Moïse, attends, je vais leur donner et de la viande et du pain. Ils auront tout ce qu'il faut. Je vais faire descendre le pain du ciel. Et là, ils sont confondus, les cailles arrivent, ils mangent à satiété, ils ont du pain, Dieu leur donne toute une façon de procéder, etc., etc. Il leur donne tout. Et puis, Dieu tient compte de leur santé, il sait que le désert est difficile, alors il leur dit, écoutez, vous allez avoir un jour de Shabbat, un repos. Le sixième jour, je vous donnerai le double. Comme ça, demain, vous ne manquerez rien le septième jour. Vous aurez à vous satiéter même le septième jour. Reposez-vous. Il y en a qui n'ont pas écouté, ils sont sortis le septième jour, ils ont rien. Rien, ils n'ont pas écouté, certains. C'est important pour Dieu de nous donner du repos. C'est pour ça que Hébreux nous dit, il y a un repos pour le peuple de Dieu. Il y a un repos de Shabbat pour le peuple de Dieu. Un repos pour prendre le temps de nous arrêter dans la course folle de nos vies. Un temps de repos pour se ressourcer en lui. Pour lui donner l'occasion de nous ressourcer. Ils ne l'ont pas compris sur le moment. D'ailleurs, Jésus aura tant de problèmes avec les religieux à propos du Shabbat. Eux non plus n'avaient pas compris que le Shabbat, c'était pas une exigence de plus de Dieu pour nous écraser, mais c'était pour nous libérer de toutes les contraintes de la vie, pour pouvoir nous ressourcer, nous faire du bien en lui. Mais voilà, ils sont sortis le jour du Shabbat. Ils ont voulu aller aller chercher la manne, ils ont voulu... Ça, c'est tout l'être humain, la peur de manquer, la peur de, du toujours plus, travailler plus, pour avoir plus, pour avoir plus. Et Dieu veut nous libérer de cette folie du toujours plus, du toujours plus, dans cette société de consommation qu'on a aujourd'hui. Jésus dira, si tu as le manger et le vêtement, cela te suffit, cela se suffit. Mais cette course folle, il veut nous éviter ça. Sois dans le repos, sois dans le repos. Ces épreuves sont là pour comprendre que Dieu, jour après jour, veut s'occuper d'eux, veut s'occuper d'eux. Et puis, au chapitre 17, ils arrivent dans le désert de Chine. Et là, ils sont pressés par la soif, encore. Le peuple voulait boire. Et bien sûr, ils s'en prennent à Moïse. Hein. Forcément, il faut s'en prendre au conducteur. Hein. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans tous ces passages, c'est qu'on voit que Dieu est dans un calme extraordinaire. Qui est-ce qui est affolé? C'est Moïse. Et Moïse, il est complètement affolé. À chaque problème, il est affolé, le peuple est là, il faut répondre au peuple. Vous savez, ce n'est pas facile d'être un responsable spirituel. Même quand on s'appelle Moïse. Parce que nous sommes devant de telles exigences. Nous sommes parfois devant telles difficultés qu'il faut plus qu'un Moïse. Il faut plus qu'un homme. Il y a des choses qu'on peut faire humainement. On peut conseiller, on peut compatir, on peut... Mais il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Même s'il y avait un Moïse au milieu de nous, il faut le divin Moïse pour répondre à certaines difficultés. Même Moïse ne pouvait pas ouvrir la mer. Même Moïse ne pouvait pas donner du pain. Il faut plus... Il nous faut plus. Et vous voyez, dans tous ces passages, il y a des murmures constamment du peuple. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que jamais, jamais Dieu ne s'irrite. Jamais Dieu ne leur fait de reproches. Jamais, jamais. C'est Moïse qui panique. Dieu ne panique pas. Il sait où il veut les amener. Dieu est en train de les enseigner que mon juste vivra par la foi. Il vivra par la foi. 40 jours, 49 jours, n'avaient qu'un seul but, c'était de leur montrer que je suis le Dieu qui pourvoira à tous vos besoins. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Confiez-vous en ma parole. Croyez ma parole. Ma parole est la vérité. Parce qu'ils auront insisté constamment dans la désobéissance. Dieu va les mettre sur cette discipline de la loi. Mais Dieu aurait tellement aimé qu'ils lui fassent confiance, qu'ils lui obéissent. Quand Dieu va leur donner les 10 paroles, nous on dit les 10 commandements. Alors les 10 commandements, ça fait brutal. Et en réalité, on devrait dire les 10 paroles. Les 10 paroles. Et la première chose qu'il leur dit dans Lévitique 25, 8, vous publierez, Exode 20, pardon, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. » Je t'ai fait sortir de la maison de servitude. Dieu veut un peuple libre, entièrement libre de toutes les contraintes que ce monde veut lui imposer. Libre, libre avec son Dieu. Oh, vous savez, quand Dieu leur demande de compter 50 jours, le fameux jubilé, dans Lévitique 25, Dieu veut les amener à se jubiler. Et là, ce ne sera pas une question de 50 jours, ce sera une question de 50 ans. Quand vous rentrerez dans le pays, tous les 7 ans, vous programmez un Shabbat, le Shabbat de la terre. Vous libérerez la terre, vous n'ensemencerez pas. Et tous les 50 ans, vous libérerez la terre, mais vous libérez aussi vos esclaves. Ce sera une année de grâce, où ceux qui auront vendu leur terre retrouveront leur propriété. Vous les rendrez libres, vous rendrez libres vos frères. Vous affranchirez, vous remettrez les dettes. Le mot hébreu pour liberté a plusieurs sens. Il y a la liberté pour le physique, pour ce que je suis physiquement. Ils sont sortis physiquement d'Égypte et l'hébreu utilise un autre mot pour la libération de l'âme. Dieu ne veut non seulement les libérer de l'Égypte physiquement, mais libérer l'Égypte de leur âme. Oh, des êtres entièrement libres, libres de toute pression. 50 ans, tous les 50 ans, ce sera une année de grâce. Est-ce qu'il y a d'extraordinaire ? Ça va être une prophétie du prophète Ésaïe. Lisez avec moi dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, 61, pardon, 61, où Ésaïe va prophétiser « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler les affligés. » Et c'est une prophétie d'Ésaïe, et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Luc nous dit que un jour Jésus va arriver dans la synagogue de Nazareth, et on va lui donner le rouleau du livre. Et vous savez que les Juifs ont partagé la Torah en 50 parties. Et il y a un autre passage de la Bible qui va avec chaque partie. Et ce jour-là, dans la synagogue de Nazareth, il y avait justement ce passage à lire. Et on donne ce passage à lire au Seigneur Jésus, et c'est justement ce passage d'Ésaïe où il nous est dit en Luc au chapitre 4 et verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le Seigneur ne continue pas la prophétie. Il s'arrête à ce verset pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alors que la prophétie continuait en disant « Et un jour de vengeance de la part de notre Dieu. » Jésus n'est pas venu dans un premier temps pour amener la vengeance, mais une année de grâce. Une année de grâce. Et cette année de grâce, elle va commencer avec lui. Cette année de grâce, une année de libération, une année de grâce parce qu'il a accompli les trois premières fêtes de l'Éternel. Il a été l'agneau immolé. Il a été la fête des pains sans levain. Il est sans péché. Et il est aussi en sa personne la fête des gerbes. Il est ressuscité. Il est ressuscité et il va nous amener vers ce 50e jour. 50e jour où on va passer de Pâques à Shavuot. Et pour nous chrétiens, ça sera de Pâques à Pentecôte. Et on y vient dans quelques jours. Pentecôte veut dire 50. Et nous sommes dans ce cheminement aujourd'hui entre ces deux fêtes. Entre ces deux fêtes où, dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 4, il va nous parler qu'après être ressuscité pendant 40 jours, 40 jours, il va donner des preuves à ses disciples qu'il est vraiment ressuscité. Et il va les enseigner, pendant 40 jours, il va les enseigner en ce qui concerne le royaume de Dieu. Il ne va pas perdre son temps dans ces 40 jours. Et puis après, ils vont attendre 10 jours la promesse, et le 50e jour, le Saint-Esprit va venir, et ils vont être remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est 50 jours. Le Saint-Esprit va venir et il va nous enseigner toutes choses. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que à Shavuot, les Juifs reçoivent la Torah, la parole de Dieu, et à Pentecôte, on reçoit le Saint-Esprit. La parole et le Saint-Esprit ensemble, cette parole qui devient vivante, qui devient nourrissante. L'Esprit et la parole jointes, et Dieu va accomplir le jubilé pour tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus pourra dire, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Paul nous dira, là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté des enfants de Dieu. On pourrait lire dans 2 Corinthiens, voilà, c'est le printemps, ça fait rien, ça ira pas plus bas. J'ai plein de choses, il faut que je fasse le ménage dans ma Bible. Hein. Dans 2 Corinthiens, chapitre 3, voilà, j'y arrive. Verset 17, il nous a dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert, reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transportés dans la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Voilà cette liberté de l'Esprit que Christ nous a acquis. Et il y a un parallèle extraordinaire avec ce qu'on vient de lire dans Exode et dans l'évangile de Jean. On voit que dans l'évangile de Jean, il y a un suivi extraordinaire, comme il y a dans Exode. On voit que la mer a été fendue, ils ont pu passer. On voit qu'ils ont souffert de la soif. Jésus pourra dire, Jésus... Dans le même cheminement, il va s'adresser à la Samaritaine. Oh, si quelqu'un boit cette eau, il aura toujours soif. Mais l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. Et puis, on a vu qu'ils ont eu faim, alors ils ont eu la manne. Et on voit que Jean, il suit cette même trajectoire. Jésus va multiplier les pains. Et puis après, il va dire, « Je suis le vrai pain de vie. » Je suis le vrai pain de vie. Et puis après, il va faire une allusion au Shabbat, vers cette liberté, vers ce repos que nous donne le Shabbat. Et puis après, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il parlait du Saint-Esprit qui allait venir. Équipé du Saint-Esprit à Pentecôte. Vous savez, frères et sœurs, on a tellement besoin de l'Esprit de Dieu. Il va y avoir un ordre du Seigneur. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Nous avons vu que Dieu avait dit à ce peuple, le pays que je vous donnerai, c'est un pays extraordinaire, extraordinaire. Il y aura tout ce que vous voulez, tout ce que vous voudrez. Mais, il faudra que vous soyez sérieux avec ma parole. Le pays que je vous donne, il faudra y vivre par la foi, par une confiance totale en moi. Ce pays, il y aura des ennemis. Il y aura des peuples qu'il faudra chasser. Ça ne sera pas sans mal. Alors, si vous me faites confiance, mais marchez par la foi, en ayant confiance en ma parole. Et la question du Seigneur, c'est que, quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Trouverai-je cette confiance absolue dans ma parole, dans ma parole. Vous savez, ce monde n'a jamais été aussi asservi à la consommation à outrance. En réalité, frères et sœurs, notre génération, est-ce qu'on a eu besoin de foi pour servir le Seigneur ? Certaines fois, oui, mais on a eu un travail, on a eu un salaire, ça va. On a pu gérer comme quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si on gérait bien son salaire, ses affaires, on n'avait pas trop besoin de la foi en réalité. Bien sûr, on croit par la foi, on croit, ça c'est sûr. Mais finalement, pas plus qu'un de mes collègues de travail qui, voilà. On a eu foi dans le Seigneur, on est né de nouveau, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est que la foi dans les moments difficiles ? Dans les moments où nous sommes comme le peuple d'Israël, où nous sommes bloqués de tous les côtés, comme dans chez nos frères et sœurs dans les pays en ce moment. Et je crois que le dernier combat, frères et sœurs, ça va être ce combat de la foi, ce combat de lui faire totalement confiance. Quand la parole de Dieu nous achemine vers un temps où on ne pourra peut-être plus rien acheter ni vendre, frères et sœurs, est-ce que nous aurons toujours confiance en lui pour demain ? Je crois qu'il faut nous préparer, frères et sœurs, préparer l'Église aux temps qui viennent, même si tout se ferme. Est-ce qu'on continuera à avoir confiance en lui ? Préparons l'Église, frères et sœurs. Des temps qui viennent. Je suis effaré de voir les décisions qui sont en train de se prendre, même dans les milieux chrétiens. Rester fidèle à la parole de Dieu va nous coûter, frères et sœurs. J'hésite de parler de l'Église persécutée parce qu'en réalité, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, frères et sœurs, d'être persécuté. J'ai mes problèmes, j'en ai eu. Vous en avez eu. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que moi qui vous parle, ce que je tiendrai, je compte sur la grâce de Dieu. On est petit. On est petit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous fortifie. Oh, c'est pour ça, frères et sœurs, que le Seigneur nous dit, je pourvoirai. Ne vous inquiétez de rien. Ne dites pas que boirons-nous, que mangerons-nous. Je pourvoirai à tous vos besoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça qui vous doit vous préoccuper. Ne faites pas comme les Israélites qui sont sortis le 7e jour parce qu'ils avaient peur de manquer. Non, faites-moi confiance. Faites-moi confiance. Faites-moi, ne vous inquiétez pas. Vous savez, à un moment donné, pour que les générations se rappellent de la bonté, de la fidélité de Dieu, il a dit à Moïse et à Aaron, regardez, allez prendre un homer de la manne. Mettez-le dans un vase pour que les générations qui viennent sachent que je suis le Dieu Tout-Puissant, que j'ai été fidèle, que vous n'avez manqué de rien. Comme un témoignage, il pourvoira, frères et sœurs, il pourvoira. Et j'aimerais m'arrêter sur quelque chose qui est sur mon cœur aussi. Dieu veut nous libérer de nous-mêmes. Il veut nous libérer pour que on se préoccupe du royaume de Dieu, des affaires du royaume de Dieu. Pas nous soucier de ce que nous allons manquer, mais du royaume. Le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est sa parole qui nous le dit. que ce soit pour un enfant, pour un ado, pour un jeune, pour un moins jeune, pour un vieillard, il sera là, il sera là. Mais, voyez-vous, dans cette année du jubilé, et je finis par ça, il nous est dit, dans cette année du jubilé qui est aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre 50 ans, Jésus est venu apporter quelque chose de permanence, une grâce permanente que je peux vivre au quotidien. Il nous est dit, dans cette année du jubilé, que vous pouvez regarder dans Lévitique 25 en vous couchant le soir, prenez soin de vos frères. Prenez soin de vos frères et sœurs. Rachetez vos frères. Relâchez-les. Rendez-les libres. Rendez-les libres. Vous savez, frères et sœurs, que nous avons le pouvoir de nous libérer les uns les autres. Quand il nous est dit, pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. Je crois, et je ne pense pas me tromper, si je me trompe, mes frères anciens, vous me tirez l'oreille à la fin, avec amour, hein ? Mais pardonnez-vous réciproquement les uns les autres. On pourrait le transformer en « libérez-vous les uns les autres ». Vous savez, cette semaine, avec Bérite, nous avons eu l'occasion de vivre un temps béni où il y avait toute une famille en souffrance, toute une famille en souffrance depuis quelque temps, à cause de choses, de... Voilà, et on était là, essayer, et finalement, dans des pleurs, avec des larmes, il y a eu un pardon. Il y a eu un pardon. Ils se sont pardonnés. Ils se sont pardonnés. Et pendant plusieurs semaines, on a vu cette famille en souffrance, vraiment en souffrance, dans l'inquiétude. Et là, le pardon a été donné. Et ça a libéré. Libéré. Les visages n'étaient plus les mêmes. Il y avait la joie, il y avait le shalom, il y avait la paix, et il y avait la joie, la joie. Dieu nous a libérés de tant de péchés. Il nous a libérés. Mais il nous donne aussi, en veillant les uns sur les autres, il nous a donné le pouvoir aussi de nous libérer. J'ai le pouvoir de libérer mon frère. J'ai le pouvoir. Pour que on puisse vivre pleinement l'Évangile, pour que Dieu soit heureux au milieu de nous. Et quand il est heureux, on est heureux. On est heureux. Oh, frères et sœurs, frères et sœurs, l'Éternel donne la force à son peuple. Pentecôte, il veut nous remplir du Saint-Esprit. Un esprit de grâce, un esprit de paix, un esprit qui nous amène vers le pardon. Un esprit qui nous amène dans la communion, un esprit de force. L'Éternel bénit son peuple. Il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Et l'Éternel le rend heureux. C'est encore son désir aujourd'hui. Il est là, il est présent et il veut le faire au quotidien dans nos vies. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, merci. Merci, parce que ton but est toujours le même. Seigneur, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, que nous soyons heureux d'appartenir, que nous soyons heureux ensemble aussi. Et comme nous l'a bien souligné Albert, heureux jusque dans l'éternité avec toi dans la gloire. Seigneur, merci de veiller, Seigneur, à honorer et à croire à ta parole. Que ta parole est la vérité, même si, comme le peuple d'Israël devant la mer, je ne comprends pas. Je ne vois pas dans cette circonstance comment tu peux te glorifier jusqu'à ce que toi tu agisses et tu libères. Seigneur, on ne comprend pas encore tout, mais ce qu'on sait de toi, c'est que tu es ce Dieu fidèle. Tu es ce Dieu fidèle et tu pourvoiras. Jusque dans l'éternité, jusque dans la gloire auprès de toi. Que ton nom soit béni. Amen.